Radio Open FM. L'Europe et nous, info, histoire et actu. Plongez au cœur de la culture européenne avec la Maison de l'Europe, Europe Direct Limousin.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de deux films ambitieux, denses et profondément européens. Évidemment, en compagnie de Marie-Lou, Daniela et Pablo de la Maison de l'Europe, Europe Direct Limousin. Ils vont retracer des moments clés des pays européens grâce au cinéma. Bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour. Et oui, tout d'abord, nous allons parler du film The Brutalist. Et bien qu'ayant été tourné aux États-Unis, il a aussi été présenté à la Mostra de Venise. The Brutalist de Brady Corbett n'est pas seulement un drame sur l'architecture et l'exil. C'est un film qui interroge en profondeur l'histoire du XXe siècle européen. Ses traumatismes, ses déplacements forcés et la manière dont ces ruines ont enfanté l'Europe que nous connaissons aujourd'hui. Un récit d'exil et de mémoire qui entre en résonance avec la construction laborieuse et fragile de l'Union européenne elle-même.
The Brutalist, c'est l'histoire de Laszlo Toth, un architecte juif hongrois rescapé des camps nazis qui quitte l'Europe pour tenter de se reconstruire en Amérique. Ce parcours individuel, c'est celui de milliers d'Européens dans l'après-guerre, artistes, intellectuels, scientifiques, forcés de fuir un continent en ruine, aux frontières encore mouvantes, aux nations traumatisées. Laszlo, c'est l'Europe dévastée de 1945, celle qui doit se réinventer sans renier son passé, mais qui peine à le regarder en face. Et ce qui rend le film si précieux, c'est qu'il ne se limite pas à la trajectoire personnelle du héros, il fait de ce parcours un miroir de l'Europe elle-même, en montrant que ce sont souvent ces exilés et ces marginaux qui ont contribué à bâtir ailleurs ce que le vieux continent rêvait de devenir. Le choix du brutalisme architectural n'est pas anodin. Né dans les années 1950 en Europe, ce courant esthétique privilégiait le béton brut, les formes massives, fonctionnelles et dénuées d'ornements. C'est une architecture de la reconstruction qui affirmait à la fois une rupture avec les excès décoratifs d'avant-guerre et une volonté d'aller à l'essentiel, dans un continent en manque de moyens. Dans The Brutalist, chaque bâtiment conçu par Laszlo devient un symbole de cette Europe qui, après la Seconde Guerre mondiale, tente de bâtir quelque chose de nouveau sur les décombres du passé. Le film établit ainsi un parallèle poignant entre la reconstruction matérielle et la reconstruction politique du continent. On songe à la même époque aux premières initiatives de coopération européenne avec la CECA en 1951, le traité de Rome en 1957, qui elle aussi cherchait à ériger un édifice commun pour prévenir le retour de la guerre.
Et ce qui frappe aussi dans le film, c'est la manière dont Laszlo porte avec lui les traces indélébiles de la violence européenne. Son passé, à Buchenwald ou à Dachau, bien qu'invisible aux yeux de ses commanditaires américains, habite chaque trait de ses constructions. Le film nous rappelle ici que l'Europe moderne s'est construite sur la mémoire de ses propres crimes. Et c'est là un parallèle saisissant avec la vocation mémorielle de l'Union européenne. Née des ruines de deux guerres mondiales et de la Shoah, l'UE s'est pensée comme un antidote aux dérives nationalistes et xénophobes. Elle repose encore aujourd'hui sur ce credo. Faire mémoire pour conjurer le retour de la violence. The Brutalist illustre cette tension, ce poids du passé qui façonne les structures, visibles et invisibles, de nos sociétés.
Le film oppose aussi subtilement le rêve américain, celui de la réussite individuelle et de l'intégration par le mérite, aux désillusions européennes. Là où Laszlo espère recommencer à zéro, il se heurte aux logiques capitalistes et à la récupération de son talent à des fins de prestige et de pouvoir. On pourrait y voir un écho de rapport transatlantique de l'époque, l'Europe affaiblie, dépendante des aides américaines, mais aussi soucieuse de préserver sa culture et son autonomie. Ce déséquilibre transatlantique évoque ce qu'a pu ressentir l'Europe dans les années 1950-60, tiraillé entre la nécessité de se reconstruire et le risque de perdre son âme dans l'influence américaine. Un dilemme encore très actuel.
The Brutalist n'est donc pas seulement un film sur l'exil ou l'architecture, c'est une médiation sur ce qu'est l'Europe, un continent en blessure encore ouverte, tenté de les oublier mais condamné à les intégrer dans son paysage physique et moral.
Nous plongeons dans l'histoire de Laszlo, Brady Corbett signe un grand film européen malgré ses productions américaines. Il rappelle que derrière chaque bâtiment brutaliste des années 50 et 60, derrière chaque institution européenne se cachent des récits de douleur et de survie. et que l'Europe n'en tient debout parce qu'elle a su malgré tout bâtir sur ses ruines. Un film essentiel en ces temps où les mémoires se fissurent et où les fondations de notre maison commune sont elles aussi fragilisées.
Nous vous proposons maintenant de revenir un peu dans le temps à travers l'Europe, de ses fractures et de ses réconciliations, et on va la mettre en perspective avec un film qui, sous ses airs de comédie grinçante, en dit long sur notre continent et sur ce qu'a tenté de bâtir l'Union Européenne. Je veux parler de Jojo Rabbit, le film de Taika Waititi. L'Europe, ce vieux continent, berceau des Lumières et des guerres fratricides, depuis des siècles, elle se façonne au gré des conflits, des alliances, des conquêtes et des idéologies. L'histoire européenne, c'est celle de nations qui se sont souvent définies par l'opposition à leurs voisins. Et l'un des épisodes les plus tragiques et fondateurs de cette histoire, c'est bien sûr la Seconde Guerre mondiale. Une guerre née de la haine, du nationalisme exacerbé et du rejet de l'autre. C'est là qu'entre en scène Jojo Rabbit. Ce film, sorti en 2019, nous plonge dans l'Allemagne nazie à travers les yeux d'un enfant endoctriné. Jojo, dont le meilleur ami imaginaire n'est d'autre qu'une caricature absurde d'Adolf Hitler, avec un humour noir et tendresse, Taika Waititi démonte les mécanismes de la propagande et du fanatisme. Pourquoi ce film nous parle-t-il encore aujourd'hui? Parce qu'il nous rappelle à quel point l'Europe a été capable du pire et qu'il a fallu du courage, de la lucidité et beaucoup de volonté pour tenter d'en faire le meilleur.
Après la guerre, l'Europe est un champ de ruines, des millions de morts, des villes détruites, des peuples brisés. Et une question subsiste, comment éviter que ce cauchemar ne se reproduise? C'est là qu'une idée, encore utopique, commence à germer. Et si, plutôt que de s'affronter, les nations européennes mettaient en commun ce qui les avait poussées à la guerre? Je parle donc du charbon et de l'acier. Deux ressources stratégiques pour faire la guerre, ou pour bâtir la paix. C'est la naissance en 1951 de l'ACECA, autrement appelée la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier, qui est l'ancêtre de l'Union Européenne. L'idée est simple, si la France et l'Allemagne, éternelles rivales, collaborent économiquement, elles auront moins de raisons de se faire la guerre. Et si je vous raconte ça, c'est parce que dans Jojo Rabbit, on voit bien que la haine n'est pas une fatalité. Jojo, ce gamin fanatisé, finit par remettre en question ce qu'on lui a appris. Il découvre l'amitié, la tendresse, l'humanité derrière l'ennemi qu'on lui avait désigné. Et au fond, c'est exactement ce que l'Europe a tenté de faire après 1945. Transformer la méfiance en dialogue et la haine en coopération.
Ce n'était pas gagné. Car si aujourd'hui on parle de l'Europe comme d'un grand espace de libre circulation, de monnaie commune et d'institutions parfois lointaines à Bruxelles et Strasbourg, il faut se souvenir que l'Union européenne est née sur un traumatisme, celui des guerres mondiales. Et que derrière chaque traité signé en Rome, Maastricht, Lisbonne, il y a la volonté de conjurer les démons du passé. Des démons qu'incarne si bien Jojo Rabbit, l'endoctrinement des enfants, la diabolisation de l'autre et la violence d'État sont montrés sous un jour absurde et terrifiant. Le film nous rappelle que la barbarie peut prendre les visages ordinaires, que derrière les grands idéaux de pureté et de nation, il y a souvent la peur et l'ignorance.
Et c'est précisément pour combattre cela qu'on a créé l'Union Européenne, pour faire circuler les idées, les personnes, les cultures, pour que les jeunes Européens aient plus de raisons de se connaître que de se méfier. Alors bien sûr, tout n'est pas parfait. L'Union Européenne traverse des crises, le Brexit, la montée des nationalismes ou même l'euroscepticisme. Certains estiment qu'elle est trop technocratique, trop éloignée des citoyens. Mais il ne faut pas oublier d'où elle vient et ce qu'elle a permis d'éviter. Car si Jojo dans le film peut sortir de son endoctrinement, c'est parce qu'il rencontre l'autre, qui est une jeune fille juive cachée, qui n'est pas le monstre qu'on lui a décrit. De la même façon, l'Europe a voulu créer des ponts là où il y avait des murs. Et cette idée reste, encore aujourd'hui, d'une actualité brûlante.
Pour conclure, je dirais que Jojo Rabbit n'est pas qu'une satire du passé. C'est un avertissement pour le présent et un espoir pour l'avenir. Il nous montre que la haine et l'ignorance se transmettent, mais que l'empathie et la curiosité aussi. L'Union Européenne, c'est cette tentative politique de faire de la rencontre et de la coopération des valeurs structurantes. De créer un espace où l'on se découvre davantage européen, parce qu'on accepte nos différences plutôt qu'on les redoute. Alors la prochaine fois qu'on vous parlera de directives européennes ou de débats parlementaires à Bruxelles, souvenez-vous qu'il y a derrière ces institutions parfois arides une histoire de sang, de larmes et d'espoir. Et peut-être qu'un jour, on écrira un film où l'Europe, comme Jojo, finit par grandir et comprendre que la haine n'est jamais une solution.
Eh bien, merci à tous, à tous les trois, pour ce beau panorama cinématographique qui nous a permis de mieux comprendre l'histoire de l'Europe et de l'importance de son existence aujourd'hui. On profite de cette dernière chronique avant l'été pour souhaiter une bonne continuation à Pablo et Danila, pour qui c'était également la dernière chronique. Bonne continuation à tous les deux. Et Marie-Lou, on te retrouvera à la rentrée.
Oui.
Je ne serai plus là.
Oui,
mais je t'écouterai.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
À bientôt.
À tous.
Bon été.
Bonnes vacances.
C'était Europe et nous. Infos, histoires et actus autour de la culture européenne. À retrouver chaque semaine avec la Maison de l'Europe, Europe Direct Limousin, 51 avenue Georges Dumas à Limoges, 05 55 32 47 63 et sur le www.europe-limousin.eu.